Aujourd'hui, une autre émission de rencontres spirituelles et nous avons surtout deux saints fort connus, l'une plutôt et l'autre beaucoup moins connue. Et pourtant, ce sont deux personnages très intéressants quand on les étudie sous le bon angle, mais c'est pas facile. La première, c'est Sainte Rose de Lima. Tout le monde connaît le nom de Sainte Rose de Lima. Je pense bien que la plupart se demandent au juste qui elle est. Ce qu'on sait, c'est que c'est la première sainte du continent américain. Évidemment qu'elle est de Lima, au Pérou, mais il y a très longtemps, puisqu'elle est née au mois d'avril, 1586, le 20 avril. Et le deuxième saint d'aujourd'hui, c'est Saint Philippe Benetti. Ça se prononce Benetti selon Monseigneur Cimichella, italien lui aussi. Filippo Benetti. Ça s'écrit soit B-E-N-I-T-I avec un T à la québécoise, où il y a un Z un peu dans le T, n'est-ce pas? Un servite de Marie, comme Monseigneur Cimichella, c'est un servite de Marie absolument exceptionnel. Vous verrez par sa vie tout à l'heure que c'est une vie rare. Un jeune homme qui était déjà médecin et docteur en médecine à 21 ans. Exceptionnel. Donc, Sainte Rose de Lima, nous allons commencer par elle. Elle est d'origine espagnole, évidemment, puisqu'elle est de Lima, au Pérou, née au 16e siècle, à la fin du 16e siècle, comme je vous ai dit, 1586. Ses parents, qui étaient de condition moyenne, disons, l'ont appelée Isabelle. Donc, toutes les Isabelles, c'est un peu leur fête aujourd'hui, puisque son nom de Rose n'est qu'un surnom. Et oui, c'est un surnom. C'est rare qu'une sainte ou un saint porte comme saint son surnom. C'est exceptionnel. Ça lui vient de son teint. Paraît-il qu'elle était très belle. Elle avait un teint superbe. Ça lui a valu d'être surnommée, justement, Rose. Et Saint Uribe, ou Toribio, qui était archevêque de la ville, il est célébré, lui, au mois de mars, le 23 mars. Je vous en parlerai, c'est un évêque très intéressant, qui est mort en 1606. J'ai lu sa vie, c'est passionnant. Et alors, il a d'ailleurs confirmé, chose assez spéciale, il lui a donné le sacrement de confirmation sous ce nom de Rose, qui était son surnom. Elle y a ajouté finalement celui de Sainte Marie, elle se faisait appeler Rose Marie de Lima. Elle a eu une enfance très mortifiée, c'est assez spécial. On pourrait dire qu'elle a du masochisme, une déformation psychologique. C'est pas sûr, et moi, personnellement, je crois que il faut tenir compte de l'époque, de la lecture de certaines vies de saints qui pratiquaient des ascèses extrêmement pénibles dès le 3e, 4e siècle, comme on sait, dans tout le Moyen-Âge. Elle a dû être marquée par ça. Elle a été de bonne heure ce qu'on peut appeler une disciple de l'Académie du Calvaire. Étrange école qui régnait beaucoup dans la mentalité des gens jusqu'à tout récemment. C'est pas une académie qui existe en fait, n'est-ce pas? C'est un surnom qu'on pourrait lui donner. Elle a pris bientôt pour idéal Sainte-Catherine de Sienne. Alors j'ai bien hâte un jour de vous parler de Sainte-Catherine de Sienne, qui est une de mes saintes préférées, qui était une femme féministe avant l'âge, qui allait jusque à Rome parler au pape pour lui demander de s'amender. Elle avait un courage de fer, Sainte-Catherine de Sienne. Et ce fut l'idéal de Rose de Lima. Mais l'idéal, c'était pas tellement ce que Catherine de Sienne faisait par rapport à l'autorité, mais par rapport aux plus pauvres et par rapport à l'ascèse personnelle, c'est-à-dire aux mortifications et à la pénitence. Un jour, d'ailleurs, la mère de Rose de Lima lui a mis un chapeau de fleurs pour la rendre plus jolie lors de certaines visites qu'elle faisait. Alors, elle a rangé les fleurs en couronne d'épines. Déjà, elle avait un petit caractère spécial. Hein? Son éducation a été plus soignée que celle de la plupart des jeunes péruviennes de son temps. Hein? Elle a appris à jouer des instruments à cordes. Elle est, comme Saint François d'Assise, elle est devenue poète. Et une femme, un jour, s'extasiait devant les doigts, les très beaux doigts de Rose de Lima. Alors, elle les a légèrement brûlés pour les abîmer un peu, afin d'éviter qu'on lui dise qu'elle avait de beaux doigts. Vous voyez comme l'époque, c'est une époque très particulière, et aujourd'hui, on dirait, mais elle est folle, on la ferait traiter par un psychiatre. On aurait peut-être un peu raison. Parce qu'un enfant qui fait des choses comme ça, c'est un peu spécial. Mais, encore une fois, je vous prie de bien comprendre que ces choses se passent, non pas aujourd'hui, mais à une autre époque où les conceptions étaient très différentes, très, très différentes. Hein? Nous qui avons un certain âge, bon, j'aurai 70 ans l'an prochain, je me souviens de choses dans les années 30 qui sont absolument inconcevables aujourd'hui. Hein? Inconcevables. Imagine-t-on aujourd'hui dans des églises des filets de gens de chaque côté des confessionnaux, de plusieurs confessionnaux dans toutes les églises, et les gens qui attendent debout, hommes, femmes, enfants, dans le silence le plus total, pour se confesser, puis ils attendent pendant des heures. Imagine-t-on ça aujourd'hui? C'est impensable, c'est un petit détail de rien du tout. Hein? Alors, quand on voulait la présenter, elle grandissait. Bon, on voulait la présenter dans le monde. Mais quand j'étais jeune, les jeunes filles, imaginez, faisaient leur début. On appelait ça leur début. Il y avait des grands bals. Les jeunes filles s'habillaient de robes de bal. Elles étaient accompagnées de jeunes gens très jeunes, 16, 17, 18 ans. Et elles étaient présentées, c'était leur début dans la société. Les journaux parlaient de ça, avec des photos, des descriptions, des toilettes et tout ça. J'ai connu ça dans mon jeune temps. C'est impensable aujourd'hui, hein? Impensable. Alors les choses changent. Alors elle n'aimait pas se faire présenter comme ça. Alors elle se frottait les paupières avec des piments pour avoir l'air un peu en larmes. C'est très particulier. Ses parents ont été touchés par la maladie à un moment donné, finalement, par la pauvreté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les aimait tellement qu'elle a passé des nuits, bien que très jeune encore, à les soigner. Et elle s'est même mis un peu de travail. Elle cueillait des fleurs du jardin, puis elle les revendait pour aider ses parents. Elle était déjà charitable. Et elle avait le sens pratique. C'est ce qui me laisse croire qu'au fond, elle était beaucoup plus équilibrée que les choses qu'elle faisait ne le laissent croire à nous de la fin du XXe siècle. Le 10 août 1606, elle a 20 ans. Elle prend l'habit de tertiaire dominicaine. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui de faire ça. C'est comme Sainte Catherine de Sienne qui a pris l'habit de tertiaire dominicaine tout en demeurant chez elle. Alors, ce fut dès lors le rejet de son moi égoïste. Et elle a cherché à pratiquer l'affabilité, l'amabilité, la gentillesse, la bonté. Toutes des vertus fort douces, mais qui exigent beaucoup de force, hein, beaucoup plus qu'on pense. On peut dire, c'est des petites vertus innocentes. Pas du tout, c'est très difficile souvent d'être très aimable, affable. C'est pas facile devant certaines personnes qui nous piquent, qui nous irritent. Hein. Et je trouve que ça prend beaucoup de force. Et ça donne une personnalité rayonnante. Rayonnante de quoi? Mais rayonnante de la présence de Dieu. Et c'est ce qu'elle avait. Tout le monde le remarquait. Elle était attrayante aux autres par sa gentillesse. Elle était secourable. Et pendant qu'elle pratiquait des mortifications sur son corps par le jeûne, même par un cilice. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était, une espèce de veste, si vous voulez, faite de crins de cheval, c'est-à-dire des, ces poils très durs des chevaux, là, par l'intérieur, et ça pique la peau, et ça doit être très, très irritant. C'était une pratique très courante jusqu'à tout récemment. Hein. Elle portait aussi des chaînes qui la fatiguaient à la taille, et elle se flagellait. J'ai connu ça dans mon enfance. On se flagellait dans les monastères dans les années 40, dans les années 50. Oui, oui. On se donnait ce qu'on appelle la discipline. Vous direz que c'est épouvantable. C'est vrai que sous certains rapports, c'est un peu terrible. Mais ça donne, vous savez, beaucoup plus de caractère et de capacité d'affronter des difficultés qu'on ne croirait. Il ne s'agit pas de tomber dans le masochisme et la bêtise. Et je m'excuse de dire que ça devait arriver, que des gens tombaient dans les exagérations, c'est sûr. Il y a toujours des gens qui exagèrent en tout. Hein. Les gens aiment le chocolat, ils en mangent trop. Pourtant, c'est bon, un peu de chocolat. Alors, tout est sujet à exagération. Et à mon avis, on me dira « je suis de droite », mais ça ne me dérange absolument pas. Je crois qu'il faut avoir un peu de respect et de sens commun quand on étudie l'histoire. Et elle, quand elle faisait ça, elle le disait à qui voulait bien l'entendre, qu'elle voulait prouver à Jésus son amour. C'est une façon, c'est une très belle façon aussi. Elle a porté une couronne ornée en dedans de 99 pointes. Je ne sais pas pourquoi 99, si ce n'est que sur le chapelet des musulmans, on acclame et on honore Allah, Dieu, par 99 qualificatifs merveilleux, comme Dieu miséricordieux, n'est-ce pas? Alors, elle cherchait à rendre aussi son lit aussi dur que possible. Ça, c'est pratiqué encore aujourd'hui, en 1995. Des gens font ça. Elle aimait la solitude. Ça se pratique encore aujourd'hui. Elle a vécu dans une petite cellule au jardin, un peu comme une recluse. Qui a fait ça au XXe siècle, si ce n'est Charles de Foucault, dans le jardin des Clarisses, à Nazareth? Elle assistait en pensée aux messes et aux prédications. Ça se fait, on le fait. Cet original était secoué parfois par Satan, dit-on. Elle a été examinée d'ailleurs très sévèrement et très minutieusement par des gens qui étaient très avertis et qui ont reconnu sa valeur exceptionnelle et les traces laissées par ce qu'on croit être Satan. On peut ne pas y croire. Pourquoi ne pas y croire quand on sait que le curé d'Ars est passé par les mêmes épreuves, et d'autres saints au XXe siècle, qu'on pense, mon Dieu, au Père Pio, à plusieurs autres au XXe siècle. On dira que ce sont des exagérations. Pourtant, les documents sont là. Rose Lima est devenue une très grande mystique. Elle était favorisée de toutes sortes de bienfaits. Elle vivait en famille, pour ainsi dire, avec notre Seigneur, avec la Sainte Vierge, avec Sainte Catherine de Sienne, avec ses anges gardiens, et qui l'aidaient et la secouraient. Et tout ce qu'elle voyait autour d'elle, les oiseaux, les animaux, les gens, l'élevait à Dieu. Elle avait, et j'aime bien ça, ce sens de l'émerveillement qui devrait nous habiter tous. Être émerveillé devant un oiseau, émerveillé devant un chat qui nous regarde, émerveillé devant tout être vivant, et même toutes les plantes, émerveillé devant les nuages qui passent dans le ciel, émerveillé devant le soleil, la lune, émerveillé devant la pluie qui tombe, s'émerveiller, se rendre compte que Dieu a fait toutes ces choses et que c'est grandiose et que c'est beau. Ça fonctionne pas toujours. Il y a des sécheresses, des tempêtes. Mais dans l'ensemble, l'organisation de la planète Terre est absolument phénoménale. Et la vie de l'être humain. Je vous en ai parlé il y a quelques jours, le dernier numéro de Science et Vie, du mois de mars dernier qui vient d'apparaître sur dans nos kiosques. C'est un numéro spécial consacré aux 9 premiers mois de notre vie dans le sein de notre mère. C'est phénoménal ce numéro, très scientifique. Ça s'adresse plutôt à ceux qui s'intéressent à la biologie ou à la médecine, à la science. Mais au fond, n'importe qui a fait quelques études peut lire ce numéro de Science et Vie avec beaucoup d'intérêt. Donc, s'émerveiller comme Rose de Lima. D'ailleurs, elle allait très loin. Elle avait un sentiment un peu bouddhiste, qui pourra plaire à certains auditeurs qui ont ce goût du bouddhisme. Car les moustiques qui formaient autour de sa tête des espèces de quadrilles, des danses, faisaient une espèce de musique, comme une auréole autour de sa tête. Et ces moustiques célébraient le Seigneur et ont été témoins de ça. Elle aimait tout être vivant. Quelque chose de très oriental chez elle, au fond. Bien entendu, elle a été persécutée par des tas d'autorités ecclésiastiques. Beaucoup d'incompréhension de la part de certains de ses confesseurs, de prêtres et de gens en place. Elle a été malade, elle a eu toutes sortes d'adversités, mais elle se réfugiait dans son amour ardent pour quelqu'un qu'elle aimait par-dessus tout, et c'était Jésus-Christ vivant dans l'Eucharistie. Elle vivait d'ailleurs de l'Eucharistie. Parfois, le Seigneur lui ménageait une petite gâterie. Une nuit, malade, elle rentre de son ermitage toute moite de sueur. Et elle reçoit, de façon presque miraculeuse, quelqu'un qui vient lui porter une tasse d'argent pleine de chocolat, c'est-à-dire une potion qui est faite de cacao, de limon et de sucre. C'était une boisson très recherchée, qui aidait beaucoup. Une petite gâterie. Il reste que la vie de Sainte Rose de Lima était à base de souffrance. Elle disait, et prenez bien ça du bon côté, c'est très beau. « Ô mon Jésus, augmentez mes souffrances, si vous voulez, mais augmentez en moi votre divin amour. » Toujours chez Rose de Lima, la souffrance est accompagnée d'amour, et d'amour, et d'amour sans fin. C'est teinté de souffrance, d'accord. Mais nos vies sont toujours teintées de souffrance. Qui ne souffre pas? Et Jésus ne nous a-t-il pas d'ailleurs donné l'exemple? Elle était dévorée de zèle pour le salut des âmes, qui étaient encore bien nombreuses, qui ignoraient le Christ dans l'Amérique du Sud. Elle aurait voulu évangéliser les Indiens, les Amérindiens. Au besoin, disait-elle, elle aurait voulu être mangée par eux si cette nourriture devait tourner à leur santé spirituelle. C'est assez étrange, mais c'est pas bête du tout. Je trouve pas ça si bête. J'ai l'impression qu'elle devait dire ça avec un certain humour. Des mauvais chrétiens qu'elle voyait lui soulevaient le cœur. Ça lui faisait mal. Et quand elle était jeune et qu'elle venait en aide à ses parents par ses travaux d'aiguille, un jeune voisin était venu à la maison sous prétexte d'un travail à exécuter séance tenante par cette jeune couturière. Et tandis qu'il la regardait avec insistance, elle lui a adressé un petit sermon très bref et net. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a converti le jeune homme. Elle a obtenu aussi qu'un religieux cesse de priser parce qu'il était pris par le tabac. J'ai l'impression que Maurice Zundel, qui fumait beaucoup, l'abbé Maurice Zundel, qui nous a laissé des ouvrages si merveilleux sur la spiritualité, sur Dieu, et qui fumait beaucoup, aurait pu invoquer Rose de Lima. De même, le fameux père Éginbal, qui n'a pas connu ici au Québec un peu le nom du père Éginbal, trinitaire qui fumait et qui regrettait de fumer, il aurait pu invoquer Rose de Lima. De toute façon, elle secourait Rosalima de son mieux toutes les misères corporelles, elle donnait aux pauvres, elle soignait les malades, jusque dans les cas les plus répugnants. Hein. Elle a passé les 3 dernières années de sa vie chez un couple, Gonzalo de Massa, qui était un fonctionnaire, et sa femme admirait beaucoup Rosalima. La dernière maladie de Rose a été très douloureuse. Elle a tenu à mourir la tête sur le bois du lit. Et ses dernières paroles ont été « Jésus, Jésus, avec moi ». Elle est morte le 24 août 1617, très jeune, à 31 ans. Son prestige lui a valu des obsèques, peut-être pas nationales, mais en tous les cas municipales, car tout Lima voulait assister à ses funérailles. Et les gens les plus importants de la ville ont tenu à porter son cercueil. Son corps a reposé quelque temps chez les Dominicains de Lima, puisqu'elle était tertiaire dominicaine. Il a reposé donc quelque temps dans le cloître. Puis il a été porté dans l'église Saint-Dominique en 1619, 2 années plus tard après sa mort. Elle y a été placée contre le maître-autel, et ensuite dans la chapelle Sainte-Catherine de Sienne, pour laquelle elle avait une profonde admiration. Il faut lire les oraisons de Sainte-Catherine de Sienne, il faut lire les beaux textes spirituels de cette sainte admirable. Clément IX a béatifié Rosalima en 1668, donc pas tellement longtemps après sa mort. Il a placé sa fête aux 26 sous pour le diocèse de Lima et l'ordre des prêcheurs. Et l'année suivante, il l'a déclarée patronne du Pérou. Ça commence, hein, la dévotion à Rosalima s'étend de plus en plus. L'année suivante, Clément X, qui a succédé à Clément IX, a étendu le patronage de Rosalima aux Indes et aux Philippines et finalement à l'Amérique entière. L'année suivante encore, en 1671, il l'a canonisée. Il a placé sa fête au 30 août. Elle était honorée au 30 août jusqu'à tout récemment, hein? Mais sa fête a été déplacée. Elle est célébrée la veille de sa mort, le 23 août. Rose de Lima est une sainte extrêmement populaire, mais malheureusement très ignorée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on croit que, comme on dit dans le Missel Effata, Jésus, pour manifester son amour à tous les hommes, s'est donné jusqu'au bout, hein, en livrant sa propre vie. C'est pour manifester l'amour qui l'habitait qu'il a fait ça. Et c'est pour aussi manifester l'amour que le Père, Dieu, porte à tous les hommes. Et cet amour, c'est quelqu'un, c'est l'Esprit-Saint. Hein. Sainte Rose veut répondre pleinement à cet amour. Elle choisit, dit le Missel, et si elle choisit une vie retirée pour se laisser attirer par le Sauveur, pour porter les hommes dans sa prière, et pour leur venir en aide d'une manière plus divine, comme tous les cloîtrés du monde. On l'a appelée la fleur du Pérou. Or, le Missel dit, cette fleur du Pérou, admirable dans toute la force d'élan de sa jeunesse, s'est unie au cœur du crucifié. Et l'Église lui la donne en exemple, pour que nous aussi, à sa suite, nous vivions de cette unité. Sainte Rose de Lima nous rappelle que sans la croix, on ne trouve pas le chemin pour monter au ciel. Elle nous demande, l'Église, d'avoir ce regard de lumière sur l'appel jaloux du Christ dans notre vie. Car l'amour du Christ, pour nous, ça je tiens à le répéter, c'est un amour jaloux. Mais c'est un amour jaloux et très doux. C'est un amour délicieux. C'est un amour qui saisit jusqu'au tréfonds de notre cœur, qui nous transporte. Et le Missel ici, Effata, continue, « Puisque le sacrifice de l'Eucharistie est la réalisation du sacrifice de la croix, puissions-nous y découvrir, d'une manière plus profonde, l'amour dont le Christ nous aime et épuiser la force nécessaire pour mieux lui répondre. Comme c'est donc vrai, il y a des gens qui ne savent pas encore ce que c'est que d'assister à une messe. C'est d'aller vers le Père, hein? Partir de chez soi pour se rendre à l'église ou à une chapelle, pour participer à une Eucharistie, à une action de grâce. Eucharistie, c'est ce que ça veut dire en grec, action de grâce. C'est rendre grâce à Dieu notre Père. Je vous récite la prière que l'on adresse à Dieu notre Père aujourd'hui en l'honneur de Rose de Lima. Dieu, en somme, Dieu Père, qui a inspiré à Sainte Rose de Lima un si grand amour qu'elle a tout quitté pour s'attacher à toi seul dans une austère pénitence, accorde-nous, par son intercession, de suivre ici-bas les chemins de la vraie vie pour goûter dans le ciel des joies inépuisables par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles. Amen. Peut-on formuler de plus belles prières? C'est tellement beau la messe. Et tout au long de l'Eucharistie, nous adressons à Dieu des prières sublimes, des prières absolument exceptionnelles. C'est plein, plein, plein. Et je vous rappelle les prières de l'Eucharistie comme vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu. Rendre grâce à Dieu, c'est la messe nous le rappelle essentiellement, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit-Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Que c'est beau! Moi, les gens qui s'ennuient à la messe, je ne comprends pas ça. Bon, ben d'accord, les prières sont dites parfois de façon morne. Mais c'est pas grave, ça. Il faut les réciter au fond de son cœur. Vibrez, vibrez. Laissez-vous prendre. Et vous comprendrez que des saints comme Rose de Lima, vibrantes d'amour pour Dieu, ont eu raison. C'est nous qui avons tort de ne pas vibrer. Les Servites de Marie ont été fondés près de Florence par sept bienheureux le 15 août 1233. Ils ont eu une influence réelle sur le développement de la dévotion à Marie, le culte de Marie, et aussi sur la pacification de l'Italie, de toute la péninsule là-bas, qui était troublée par des guerres féroces souvent, et des conflits politiques qui existaient dans ce temps-là entre les Guelfes papistes et les Gibelins, qui étaient du côté de l'empereur. Mais ça, je vous expliquerai ça un autre jour. Philippe Benetti a été le cinquième général de cette jeune congrégation des Servites. Mais comment est-il arrivé à être le général, lui qui était entré comme simple frère convert? Et ça s'est fait en très peu de temps. C'est extraordinaire. Il est né à Florence le 15 août, justement, 1224, donc 9 ans avant la fondation des Servites, jour pour jour. Son père, Jacques Benetti, appartenait à la corporation de ce qu'on appelle les apothicaires, c'est-à-dire, disons, les pharmaciens. Sa mère s'appelait, d'un nom assez curieux, Alba Verde, ou Blanche Verte. Je me souviens qu'un des noms de ma mère, qui s'appelait Juliette, était Blanche. Mais Blanche Verte, c'est la première fois que je vois ça, Alba Verde. Elle était d'une famille réputée, c'était une Frescobaldi. Hein? C'est un nom, comme vous savez, qui est très illustre à Florence. Alors, les deux parents, les deux époux, qui étaient foncièrement chrétiens, ont eu longtemps beaucoup de chagrin car ils n'avaient pas d'enfants. Mais enfin, ils ont mis au monde Philippe en 1233. Et puis, 3 ans plus tard, et le dernier enfant, parce qu'après ça, c'était trop tard, une petite fille, Jeanne,
qui est morte à 64 ans après avoir été mariée, puis membre du tiers-ordre des servites de Marie. Philippe, lui, a été instruit pendant 2 ans par un précepteur. Puis un précepteur, c'est quelqu'un qui vient, pour ainsi dire, enseigner à la maison. Il était envoyé à Paris pour 5 ou 6 ans, très jeune. L'Université de Paris avait, dans ce temps-là, des courriers. Vous savez que c'était pas facile de s'écrire et de donner de ses nouvelles à ses parents quand on était rendu au loin comme ça, de Florence à Paris, c'est pas la porte. Et alors, heureusement, l'Université de Paris déléguait des courriers à Florence, qui était une ville très importante, et les Frescobaldi entretenaient des relations commerciales avec la France. En sorte que notre jeune étudiant, Philippe Benetti, n'a pas perdu contact avec ses parents. Pourquoi les parents l'avaient-ils envoyé à Paris? Ben, c'était pour l'éloigner, afin d'éviter l'emprise des servites de Marie. Parce que cette jeune congrégation est extrêmement dynamique. Et elle était très connue à Florence. Et le père voulait pas que son fils unique devienne prêtre ou religieux. Il voulait avoir des petits-enfants. Philippe aurait pu, s'il était resté à Florence, s'intéresser très rapidement à la théologie. Et son père tenait à ce qu'il fasse sa médecine. Et puis, finalement, il est allé étudier à Padoue. Et vers septembre 1253, donc à peine 20 ans, Philippe Benetti rentrait à Florence. Il était déjà complété ses études. C'est incroyable, très tôt. Hein? Et pendant le carême de 1254, il allait souvent à la chapelle des Servites à Cafage et auprès de la ville. Il y avait là une image de la Vierge, au visage, paraît-il, d'une grande beauté. Et le jeudi de Pâques, 16 avril, Philippe a médité devant un crucifix à l'abbaye de Fiesole. Vous qui êtes allés, certains d'entre vous, à Fiesole, près de Florence, vous devez vous souvenir de ce lieu extraordinairement beau. Hein? Que c'est beau, Fiesole! Il faut aller là, c'est absolument fantastique. Donc, devant ce crucifix, à l'abbaye de Fiesole, il méditait. Il a quitté ce crucifix, décidé à se donner aux serviteurs de la mère du crucifié. Il est entré à Cafaggio, près de Florence. On célébrait la messe. L'épître du jour s'était tiré des Actes des Apôtres, au chapitre 8. Et voici ce qu'on lisait. Et n'oubliez pas qu'il s'appelle Philippe Benetti. Et le texte, c'est celui-ci. L'Esprit dit à Philippe, évidemment il s'agit de l'apôtre, « Approche et monte sur ce char. » Tout simplement. Pas compliqué. Hein? Et le jeune Benetti a pris cela pour lui. Pour lui, le char, c'était l'ordre des servites. Il s'agissait évidemment du char d'un eunuque, hein, vous vous souvenez du texte. Pour lui, c'était l'ordre des servites. Et là-dessus, il a semblé se trouver dans un désert affreux. Hein. Quand on ressent un appel à suivre le Christ, paraît-il que les gens qui nous racontent ça ont tout à coup l'impression que leur vie est nulle. Je pense à Monseigneur Papineau, ici à Montréal. On m'a raconté qu'il travaillait dans une grande compagnie ici à Montréal. Je crois que c'est O'Keefe, mais je suis pas sûr. Il avait un poste d'administrateur et il s'est rendu compte un matin, en ressentant cet appel au sacerdoce, lui qui n'était pas jeune, que sa vie était vide, c'était un désert. Et qu'il lui fallait absolument quitter son poste pour entrer au grand séminaire. C'est le sens de l'inutilité de notre vie, si intéressant soit-il sous certains rapports, qui tout à coup fait que l'appel de Dieu résonne comme dans un désert. Vous savez que ça arrive même à des prêtres. Hein? Vous savez que l'abbé Gérard Marier, qui est très connu dans le Québec, un des prédicateurs les plus recherchés, était un peu inquiet par rapport à sa vocation sacerdotale. Bon, il y a de ça bien longtemps, probablement à peu près 25 ans. Il était allé à Saint-Benoît-du-Lac, il le raconte, hein, je ne suis pas indiscret. Et à Saint-Benoît-du-Lac, il a entendu l'Évangile comme Philippe Bénitier a entendu ce texte des Actes des Apôtres. Et en entendant l'Évangile, il a ressenti au fond de lui un nouvel appel. Jésus-Christ l'appelait. Il est devenu ce merveilleux prêtre, l'abbé Gérard Marié, très connu à travers tout le Québec. Il vit à Victoriaville aujourd'hui. Il a fondé un groupement spirituel remarquable. Il a fondé aussi une association d'adorateurs, de veilleurs de nuit, qui prient chez eux la nuit, qui veillent avec Jésus. C'est très beau, hein? Il publie d'ailleurs une petite revue à ce sujet. Il a écrit sur les psaumes, il a écrit beaucoup de choses, tellement de livres que je ne saurais tout vous donner la liste, des livres très intéressants. Donc, revenons à Benetti. Alors, il voulait monter à bord de ce char merveilleux qui venait vers lui, qui était conduit par la Vierge Marie en habit de deuil. C'est dans son songe. Alors, il recevait l'invitation de monter dans le char. Et le vendredi, Philippe est retourné à Cafaggio. Il a demandé le prière. Qui était le prière? Ben, c'était le bienheureux, oui, le bienheureux Bonfilio, bon fils. En d'autres termes, c'était curieux comme prénom, hein? Bonfilio Monaldi. C'était l'un des 7 fondateurs de l'Ordre des Servites. Et dès ce jour, le 17 avril 1254, il a reçu l'habit noir des converts. Et lui, ce jeune et brillant médecin, a choisi l'humilité, le silence. Mais il y avait des visites au parloir. C'était pas possible, c'était important. Alors le prieur, le père Bonfilio Monaldi, l'a envoyé à Montesenario, à 13 kilomètres de Florence. Puis 13 kilomètres, ben à pied, c'était pas facile pour les gens qui voulaient lui rendre visite. Alors, il est resté là de juin 1254 à la fin de 1258, puis il a eu la paix. Il était frère convert. Il a obtenu de vivre finalement dans une grotte, qui a encore d'ailleurs sa fontaine de Saint-Philippe aujourd'hui. Il y avait une petite fontaine. Une femme est venue le tenter, et on dit qu'il l'a chassé, puis il s'est couché longuement dans la neige. Tu te rappelles Saint-Benoît que c'était roulé dans un buisson d'épines. Hein? Saint-Benoît, je vous parle de la paroisse Saint-Benoît ici, à Montréal. Alors, on dit qu'après s'être couché comme ça dans la neige, l'ardeur charnelle qui l'habitait, comme il habite tous les hommes, est disparue de lui. Il n'a jamais été par la suite bouleversé par un désir charnel. C'est une grâce qui est accordée beaucoup plus souvent qu'on pense aux hommes qui la réclament. Les hommes qui demandent à Dieu de devenir chaste, totalement chaste, obtiennent à l'occasion cette grande grâce d'être absolument dépourvus de désir et d'être complètement orientés dans toute leur existence par Dieu, par le désir de rendre service, de prier et de faire du bien. À la fin de 1258, donc, à 34 ans, on l'a envoyé à Sienne. Et en route, il a rencontré 2 dominicains qui ont été émerveillés par un frère convert de cette qualité qui était si pieux et surtout si savant. Alors, ils ont couru à son supérieur, ils l'ont supplié qu'il ne le laisse pas comme ça, convert, qu'il fallait mettre la lumière en haut, il ne fallait pas la laisser sous le boisseau, comme on dit dans l'Évangile. Et alors on a compris, et le samedi saint 12 avril de l'année suivante, 1258, il a été ordonné prêtre. Ils ont fait ça vite. Hein. Et pour la Pentecôte, il a célébré la messe de ce qu'on appelle la messe de prémices, le 1er juin. Et dès lors, il a occupé diverses charges, dit-on. En 1262, à 28 ans, il était déjà maître des novices. Il leur apprenait, comme on dit, les principes éternels des noviciats. Qu'est-ce que c'était dans ce temps-là? J'espère que c'est encore un peu la même chose, pas au complet, mais en tous les cas. Comment Les novices doivent rester où on les a mis. Comment, si on leur donne ou enlève quelque chose, si on leur parle mal ou bien, ils doivent tout simplement s'incliner. Il ajoute, me souviens, on pratiquait ça quand j'étais jeune, comment ils ne doivent pas avoir les yeux levés. Il fallait marcher les yeux baissés. Je me souviens, quand j'étais jeune, on nous demandait au monastère de ne pas regarder par la fenêtre. Aujourd'hui, tout ça est terminé. La modestie du regard est moins sévère. Heureusement, d'ailleurs, il faut être plus naturel et plus spontané, je crois. Et il faut savoir affronter les réalités avec beaucoup d'aisance et de naturel, je crois. Fini ce temps où il faut se conduire comme des momies, en somme. Moi, je suis contre les attitudes de momies des religieux. En 1263, l'année suivante, à 29 ans, il est devenu assistant du père général. Et enfin, le 5 juin 1267, il était élu général déjà. C'est incroyable. La congrégation, lui-même, avait simplement 34 ans. Il y avait 28 ans qu'elle avait reçu ses premiers novices, congrégation toute jeune. La situation politique était embrouillée, la concurrence était redoutable, parce que les grands ordres mendiants faisaient la vie difficile aux servites de Marie. Mais en 1267, il y avait plus déjà de 15 maisons en Italie, des fondations en France et en Allemagne, et la faveur des papes se défiait, évidemment, je vous l'ai déjà dit, de la multiplication excessive de toutes les congrégations religieuses, mais ça allait et venait. Alors on se demandait si les servites allaient mourir, associés à un des grands ordres, ou bien progresser. Innocent IV a retiré les privilèges de cette congrégation. Alexandre IV s'est montré plutôt bienveillant, lui. En 1068, les constitutions de l'ordre étaient établies à partir de la règle de Saint-Augustin. Et en 1268 toujours, au chapitre général, Philippe avait été tenté de se démettre du généralat, mais il a compris, on lui a fait comprendre, que c'était de la fausse modestie. Et que la fausse modestie n'est pas une vertu. Il faut savoir être fier des dons que Dieu nous a donnés, de les mettre au service de Dieu et du prochain, et de savoir que tout est un don de Dieu. Notre simple existence est un don de Dieu. Le fonctionnement de nos yeux, de notre bouche, de notre cerveau, de nos mains, de notre santé, tout est don de Dieu. Rien ne nous appartient. Tout est au service de Dieu. Nous sommes au fond comme des robinets. Nous donnons de l'eau claire et c'est Dieu qui la donne. C'est l'Église qui fournit l'eau. Elle est au cœur du monde. C'est l'Esprit Saint qui l'anime, et c'est Dieu. La charité de Philippe Benetti le dépouillait de tout. Un jour, il a donné sa tunique à un lépreux. Et on dit que le lépreux a guéri. Pour éviter d'être pape, même, on a voulu l'élire pape. En 1269, il était tout jeune, il s'est caché. Et du lieu de sa retraite est sorti, à son départ, cette source qu'on appelle Bain de Saint-Philippe. Un jour, il faisait extrêmement chaud, comme ces derniers temps à Montréal, ou dans la région, au Québec, il a voulu se reposer sous un arbre immense, à l'ombre. Et écoutez bien ça, c'est assez sympathique. Des garçons, des filles excitées, qui étaient vautrés là, vous imaginez pourquoi, l'ont accueilli en blasphémant et en le chassant. Alors il s'est éloigné. Mais qu'est-ce qui est arrivé, dit-on? Chose un peu surprenante, j'ai peine à le croire, un orage qui s'est déchaîné, la foudre a frappé l'arbre. J'imagine que les jeunes ont dû avoir bien peur. En 1270 et en 1271, Philippe a visité les maisons de la France. À sa mort, il y avait d'ailleurs des couvents à Paris, à Toulouse, à Montpellier, à Vienne, près de Lyon, pas en Autriche, mais près de Lyon, à Avignon. Il y en avait en Allemagne. Et en Allemagne, l'ordre était né en 1255, et bien Saint-Philippe a failli périr dans une forêt où il a erré trois longs jours, il était perdu. En 1272, donc, il est entré à 38 ans en Italie, où il a réussi à apaiser des dissensions politiques. Il avait plutôt 48 ans. Il vint au Concile de Lyon, donc, puis il a visité ses couvents français et allemands, et là, le pape Grégoire X, qui avait approuvé les servites, mais pas par écrit. Alors, on était toujours un peu dans l'inquiétude. Le revenu en Italie, en 1276, Philippe Benetti a repris son rôle de pacificateur à Bologne, à Florence, à Pistoie. Il y avait toujours ces petites guerres dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il criait hardiment « Votre ville est une Babylone maudite ». Imaginez un prêtre qui parle comme ça, aujourd'hui c'est impensable. Parce que s'il fallait que notre archevêque, Mgr Turcotte, dise de Montréal que c'est une Babylone maudite, il y aurait des réactions très négatives. Alors lui, ben, il criait comme ça. « Votre ville est une Babylone maudite où ne règne plus Jésus-Christ, mais l'impie Nabucodonosor, le démon, dont vous adorez la statue, et auquel, aveugle, vos mains sanglantes sacrifient chaque jour des vies humaines. » Et on sait qu'on en sacrifie des vies humaines à Montréal. Toute la drogue qui sacrifie des vies humaines, les avortements, le manque de respect d'une jeunesse qui voudrait se dépasser et vivre vraiment et qui n'a pas d'emploi. Toutes ces vies humaines, c'est terrible, terrible ce qui se passe actuellement dans notre société. Nous sommes aveugles. Le 18 janvier 1280, la paix était proclamée, jurée solennellement à Florence. Philippe Benetti avait gagné. Donc en 1276, l'ordre avait été menacé de suppression par le pape dominicain, le bienheureux Innocent V, mais en 1277, Jean 21 a maintenu l'ordre. Nicolas III, en 1278, l'année suivante, a donné un cardinal protecteur aux servites. Et finalement, en 1282, alors que Philippe était à Forlì, là, un jeune homme, Pérégrin Latiosi, a ameuté quelques garçons qui étaient fort joyeux, et puis ils ont chassé de la ville Philippe Benetti. Qui a fait ça? Pérégrin Latiosi. Qui est devenu Pérégrin? Écoutez bien ça, Philippe, qui avait été chassé puis insulté, s'en allait en priant. Et tout à coup, il a été rejoint par notre Pérégrin, qui ça veut dire pèlerin, ce Pérégrin. C'est un prénom qui existait dans ce temps-là. Il a été rejoint par notre Pérégrin Latiosi, qui était retourné par tous les remords qu'il ressentait au fond de son cœur, parce que c'était un bon jeune chrétien, un peu folichon, mais quand même. Et Pérégrin Latiosi est devenu un servite exemplaire. Et il a accompli, comme son prénom le disait, un pèlerinage terrestre qui l'a fait aboutir à la sainteté. Il est même assez vénéré à Montréal, et on sait, il est invoqué, particulièrement par les cancéreux. À la fin de 1284, Philippe Benetti a reçu dans le tiers-ordre Sainte Julienne Falconieri, auquel il a donné des mantes, et on les appelait les mantelets. En avril 1285, l'année suivante, allé voir le pape à Pérouse, le pape était à Pérouse, en Italie, Philippe Benetti, qui était général à ce moment-là de combien de religieux? 10 000 religieux. Il pouvait plus voyager à pied tant il était fatigué. Il s'était résigné à monter un âne, et vers ce temps-là, il a rencontré deux pauvres filles de mauvaise vie qui lui ont offert leur triste service. Comme on voit dans nos rues à Montréal, c'est souvent partout. Combien de fois on se fait accoster quand on se promène? Ces pauvres femmes, au regard de mendiantes, au fond. Il les aurait pris avec douceur. Il leur a donné un petit secours, ce dont ils disposaient. Et puis les a suppliés de vivre honnêtement pendant seulement 3 jours, c'est tout. Il a dit ensuite à ses religieux, « Quelle souffrance attendent ces riches hypocrites et cruels qui n'ont pas pitié de la misère des pauvres femmes et qui les forcent à devenir des esclaves du vice. » Et la bonté de ce saint, Philippe Benetti, a converti ces deux femmes qui se sont retirées, pas loin de Todi, où il est mort d'ailleurs, en un endroit appelé la Porcherie, hein, c'est curieux. Et cet endroit, la porcherie, a servi pour faire de ces jeunes femmes qui s'appelaient Hélène et Flore les premières cloîtrées des servites. Vous avez probablement vu ce film où l'on voit des dominicaines qui avaient été des femmes de vie et qui deviennent des femmes qui aident les prisonnières. C'est un très beau film qu'on voit à l'occasion, un film en noir et blanc. Il nous est présenté très tard. Les anges du péché, le titre de ce film. Philippe est tombé malade, donc, à Todi. C'est une très belle ville dans l'Ombrie, là où a vécu François d'Assise, Claire d'Assise. Il est mort, c'est-à-dire il est tombé malade le 15 août 1285, le jour de son anniversaire, et le jour anniversaire de la fondation des Servites, vers 3 heures, après avoir prêché le matin. Et dans ses derniers instants, après avoir reçu la communion, puis l'extrême onction, ou le sacrement des malades, comme on dit aujourd'hui, il a réclamé son livre. On se demandait ce que ça voulait dire, son livre. Alors on lui a offert son psautier, les psaumes. On lui a offert l'office de la Sainte Vierge. C'est une espèce de petit bréviaire qui ressemble au grand bréviaire, mais qui s'adresse plutôt à la Sainte Vierge. On lui a offert son ouvrage sur les origines de l'ordre de Servite. Puis finalement, on a compris que son livre, c'était quoi? C'était ce petit crucifix d'ivoire qu'il gardait de sa jeunesse. Puis là, il l'a baisé en disant, « Ah, le voilà, mon livre. C'est là que j'ai tout appris. La vie chrétienne et le chemin du paradis. » C'est ça, un crucifix. Hein? C'est ça, un crucifix. Quand on le regarde, c'est là qu'on apprend. Il est mort le 22 août au soir. Le jeudi 23, on a repoussé l'idée d'une messe en noir pour le repos de son âme. Je trouve ça merveilleux. On a célébré une messe en blanc. On a chanté la messe Gaudeamus, réjouissons-nous, en blanc, avec le Gloria et le Credo. Je me souviens quand ma belle-sœur Juliette Joubert, la femme de mon frère Louis, beau grand Champagne, est morte. Dans la fameuse épidémie de polio, à 42 ans, elle l'a laissé avec 6 enfants, mon pauvre frère, des enfants de 17 à 5 ans. La messe à Ponvio, à l'église de Ponvio, était célébrée en blanc. À la surprise générale, à la fin des années 50, ça ne se faisait pas. Et c'était une messe dans la joie. Et mon frère avait refusé de porter le deuil. Et les enfants, les plus jeunes, portaient des vêtements jaunes et des vêtements rouges. C'était dans une joie douloureuse où les larmes coulaient, mais dans la joie de la foi. Et c'est ce qu'on a fait pour Saint-Philippe Benetti. L'absoute a été remplacée par des cantiques. Le corps est resté exposé jusqu'au 28, c'était long à l'époque, incorruptible et comme parfumé, malgré la chaleur épouvantable. Et les Florentins ont fait 2 tentatives sans résultat pour ravir le corps et pour en tirer des reliques. Philippe Benetti a été béatifié par Léon X. Il a été canonisé par Clément X en 1671. Mais la promulgation de cet acte date de Benoît XIII en 1724. Innocent XII lui a attribué une fête double pour toute l'Église, avec raison, je crois, en 1694. Voilà un saint, moi, qui me plaît beaucoup, par son humilité au début de sa vie religieuse, par l'acceptation avec beaucoup d'humilité de son rôle important qu'il a eu à jouer, mais toujours en comprenant que c'est un don de Dieu. Tout est don, tout est grâce, tout doit être mis au service des plus simples et des plus pauvres. Comme le fait, oh, je suis indiscret peut-être, Monseigneur Chimichella, qui s'occupe de beaucoup de gens, et qui est toujours, ou presque toujours, disons, d'une immense patience avec des gens qui sont parfois un peu difficiles.